Merci. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. La conférence de ce jour sera animée pour l'équipe pays des Nations Unies, pilier développement. Nous avons Geneviève Delaunoy. Pour le pilier humanitaire, Yvon Edoumou. Le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass est là pour nous donner des informations concernant la situation militaire et sécuritaire. Je suis Madnoj Mounoubaï pour la MONUSCO. Commençons tout de suite avec la MONUSCO. Le monde commémore ce mercredi 2 octobre la journée internationale de la non-violence. Dans son message de circonstance, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, déclare, et je le cite, « La non-violence n'est ni inerte ni passive. Il faut du courage pour faire front à ceux qui ont recours à la violence pour imposer leur volonté ou leur conviction. Il faut de la détermination pour dire non à l'injustice, à la discrimination et à la brutalité et pour revendiquer le respect de la diversité et des droits de l'homme fondamentaux. Il faut du courage aussi pour renoncer au conflit et accepter la négociation pacifique. La non-violence a besoin au sein des nations, des communautés et des foyers, de porte-parole soutenus par des gens courageux, prêts à réclamer la paix, la liberté et l'équité. » Fin de citation. Le texte complet de cette déclaration sera disponible à la fin de cette conférence de presse. De son côté, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a déclaré, et je le cite, « Il n'y a pas de demi-violence. Il ne doit donc pas avoir de demi-mesure dans la lutte contre la violence. Mettre fin à la violence sous toutes ses formes et en priorité le terrorisme sexuel nécessite l'énergie de tous à chaque instant. C'est pour cela que je souhaite que nous marchions ensemble, les Congolaises et les Congolais, le gouvernement congolais et l'ensemble de la communauté internationale vers une société non violente. » Fin de citation. La journée internationale de la non-violence a été décrétée le 15 juin 2007 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. Cette journée est pour les Nations Unies l'occasion de diffuser le message de la non-violence, notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation. Passons à tout un autre chapitre. Le représentant spécial du secrétaire général, Martin Kobler, vient d'effectuer du 28 au 29 septembre sa toute première visite en Ituri, en province orientale. Au cours de cette visite, Martin Kobler a procédé le dimanche 29 septembre à Bunia à l'inauguration et à la remise officielle aux autorités du district de la route Pimbo-Jina sur la nationale numéro 4. Les travaux de réhabilitation ont été exécutés par le contingent népalais du génie militaire de la MONUSCO. C'est une route de grande importance pour l'Ituri car elle permettra d'assurer plus aisément la liaison entre les différents territoires de ces districts mais aussi avec le reste de la province orientale. Toujours sur la nationale numéro 4, M. Kobler a procédé également au lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Bunia-Jina qui sera également exécuté par la même compagnie népalaise du génie militaire de la MONUSCO. M. Kobler a affirmé que par ces travaux, la MONUSCO veut soutenir les efforts du gouvernement pour la stabilisation, la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour terminer, je voudrais rappeler encore une fois à nos collègues journalistes que leur embarcation sur les aéronefs de la MONUSCO est soumise à des règles très strictes dictées par les services administratifs et de sécurité de la MONUSCO. De leur côté, nos amis journalistes sont tenus aussi de respecter les engagements qu'ils prennent librement au moment de leur demande de voyage. Ce rappel est pour dire que dorénavant, le bureau de porte-parole va respecter strictement ces règles afin d'être en accord avec les avis du service de contrôle. Merci et je passe la parole maintenant à Geneviève.
Bonjour à tous, bonjour à Goma. Alors le PNUD et le ministère du genre, de la famille et de l'enfant ont lancé officiellement un vaste programme conjoint d'une durée de 5 ans et d'un montant de 18 millions de dollars financé par le Canada dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en Ituri et Bawele, en Équateur, Bandundu et Kinshasa. Ce programme de lutte contre l'impunité, d'appui aux violences, aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes s'inscrit avec la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles. L'objectif principal de ce programme est de contribuer à réduire durablement la prévalence des violences sexuelles en RDC. Ces objectifs spécifiques ont trait à la lutte contre l'impunité, à la prévention et la sensibilisation basée sur une stratégie de communication pour les changements de comportement, la prise en charge psychomédicale et la réinsertion socio-économique des victimes et survivantes des violences basées sur le genre. Le ministère du genre ainsi que le ministère de la justice et des droits humains assureront la tutelle gouvernementale de ce programme. Sont également partenaires le PNUD, le FNUAP, l'UNESCO, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits humains et la FAO, ainsi que les ministères et divisions provinciales des ONG nationales et internationales, des universités congolaises et des établissements scolaires. Ce programme englobe tous les aspects médicaux, psychologiques, judiciaires, familiaux, sociaux, politiques, législatifs, éducatifs et économiques pour aboutir à une meilleure coordination des activités et déboucher sur des résultats concrets et structurants pour les victimes. Toutefois, tant que le statut de la femme congolaise ne sera pas amélioré, les violences sexuelles et basées sur le genre ne cesseront pas. Ce programme vise donc toute la société congolaise, enfants, jeunes adultes, parents, éducateurs, leaders, artistes, chefs communautaires, élus de la nation. Les hommes et les femmes de RDC doivent donc œuvrer ensemble pour combattre les stéréotypes socioculturels, freiner les inégalités qui entravent l'autonomisation des femmes, augmenter les actions de sensibilisation dès le plus jeune âge, chez les garçons et les filles, et tout au long de leur vie. Car tout type de violence et ou de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles est inacceptable. Au nom de la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, le PNUD a lancé officiellement avec le gouvernement congolais le logiciel Sidonia World, financé par le 10e programme du Fonds de Développement Européen. Ce logiciel Sidonia est l'un des plus puissants systèmes informatiques douaniers et les plus sécurisés au monde. La RDC l'a déjà intégré depuis 24 ans dans sa gestion des transactions douanières. Le lancement du logiciel Sidonia World au sein du guichet unique de l'aéroport de Ndjili est une étape supplémentaire extrêmement importante dans la modernisation douanière et le développement du pays, car son application et ses fonctionnalités seront étendues aux principaux bureaux douaniers du pays. Ce logiciel est déjà utilisé dans plus de 90 pays, dont 42 pays africains, ce qui augmentera les possibilités d'interconnexion entre pays, multipliera les échanges et permettra de lutter plus efficacement contre la fraude et la sous-facturation. Ce logiciel a été créé et développé par la CNUSED, qui est spécialisée dans le commerce et le développement. Ce logiciel permettra également de moderniser les processus de dédouanement, de simplifier et d'automatiser les procédures, d'améliorer le climat des affaires en créant une plus grande transparence des opérations de dédouanement, de diminuer la corruption et d'accroître les recettes douanières, source importante de revenus pour l'État congolais. De son côté, l'UNESCO a organisé le lundi 30 septembre à Lubumbashi, un atelier sur le journalisme d'investigation et sur l'intégration dans les médias des technologies de l'information et des communications, les TIC. Cette activité qui rentre dans le cadre du programme régulier du secteur communication et information du bureau de l'UNESCO à Kinshasa était destinée aux professionnels des médias de la ville de Lubumbashi. Cet atelier, qui intervient à la suite de celui organisé à Kinshasa début 2013, vise à renforcer les capacités des journalistes et des professeurs d'université dans deux domaines, l'investigation journalistique et l'intégration des applications d'éthique dans la production médiatique. Les communiqués de presse relatifs à ces activités seront disponibles après la conférence de presse.
Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Je passe maintenant la parole au lieutenant-colonel Félix Basse.
Merci, monsieur le porte-parole, et bonjour à tous. Nous démarrons la présentation de la situation militaire par l'ouest de la République démocratique du Congo, où l'environnement sécuritaire a été jugé relativement calme durant la semaine écoulée. En province orientale, une stabilité précaire a été observée la semaine dernière dans cette partie du pays. Les forces onusiennes et congolaises ont, pendant la période sous examen, poursuivi leurs opérations conjointes dénommées Rudia 2, Chumangumi ou Point d'Acier, Bienvenue à la paix, dans les régions de Dungu, Duru et Faradje. Dans ce cadre, le double objectif poursuivi est non seulement de neutraliser les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur Elaré, mais aussi d'inciter à la reddition volontaire d'autres éléments de ce groupe armé présent dans les districts des Hauts et Bawélé. Le climat sécuritaire demeure tendu et volatile dans le district d'Ituri, suite aux combats intermittents opposant les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, aux miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, au sud du territoire d'Irobo. Ces affrontements constituent pour la force de la MONUSCO une source de préoccupation sécuritaire additionnelle, compte tenu du flux important de populations civiles déplacées par les combats, mais aussi et surtout du fait de la difficulté à distinguer les civils non armés des miliciens du FRPI qui ont pris l'option stratégique de se fondre au sein des populations déplacées pour échapper à l'offensive des forces gouvernementales. Par ailleurs, la force de la MONUSCO et les FRDC ont poursuivi leurs opérations conjointes dénommées Pierre d'Acier, Serre de l'Aigle et Coup de patte du Tigre lancées dans le district d'Ituri. Le 25 septembre 2013, les combats se sont poursuivis entre les troupes des FRDC et les insurgés du FRPI, qui ont ainsi permis aux militaires congolais de capturer Bavi et de conquérir par la même occasion les localités de Guéti et d'Aveba. Le bilan fait état de 7 rebelles du FRPI tués, un autre appréhendé et la base des rebelles d'Aveba détruite. Ces affrontements provoquent de manière quotidienne le déplacement des populations dans les régions situées au sud du territoire d'Irumu, notamment celle de Bogoro. Le premier bataillon bangladais de la force de la MONUSCO surveille étroitement les conditions de vie de ces personnes déplacées, tout en facilitant leur accès aux organisations non gouvernementales, notamment InterSOS, Save the Children et ADES. Des patrouilles intensives de domination de terrain ont été lancées à partir des postes opérationnels déployés dans le secteur. 4 civils blessés au cours des combats dans les zones périphériques de Guéti ont à cette occasion été évacués par les troupes onusiennes du premier bataillon bangladais et transférés en toute sécurité à l'hôpital de Goma en vue de leur prise en charge médicale. Au nord Kivu, en dépit de la tension ambiante qui prévaut dans les régions situées au nord de la ville de Goma, les forces congolaises et onusiennes maintiennent la situation sécuritaire sous leur contrôle. En effet, la brigade de la force de la MONUSCO, déployée dans cette province, y poursuit sans relâche la conduite de ces 6 opérations unilatérales dans le but de dominer le terrain et de dissuader toute activité des groupes armés, notamment le M23. Le 25 septembre, le commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos Cruz, a effectué des visites d'inspection aux postes opérationnels de Pinga et Sake dans le but d'évaluer la situation sécuritaire prévalant dans les régions concernées. Le 26 septembre, à 6h30, des accrochages ont eu lieu entre les FRDC et les éléments du M23 à Mugumba, à l'est de Kahunga, 9 km au nord-ouest de Kiwanja, au cours desquels 2 insurgés du mouvement rebelle ont été tués, un militaire congolais blessé. Des troupes d'intervention rapide de la force de la MONUSCO ont immédiatement été déployées dans les régions situées au sud de la région de Kahunga, dans le but d'interdire toute exaction contre les populations civiles et assurer leur protection. À la même date, suite aux différentes initiatives de la MONUSCO visant à leur libération, 6 civils détenus par les éléments du groupe Maïmaï Tchèque en Douma Défense du Congo, NDC, ont été recueillis en toute sécurité par une robuste patrouille de casques bleus du poste opérationnel, la force de la MONUSCO de Pinga, déployée dans la localité de Nkassa. Le 1er octobre, 70 éléments Maïmaï aux ordres du général Kavawa Sieli, chef du groupe armé Force œcuménique pour la libération du Congo, ou FOLC, ont fait reddition au camp militaire FRDC de Mambango, situé à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville de Bidi. Le même jour, un convoi du contingent uruguayen de la force de la MONUSCO faisant mouvement de Kichanga vers Pinga a été bloqué au village Kashuga, situé à 8 km au sud-est de Kalembe, par une foule composée d'à peu près 200 civils. Après des négociations infructueuses, le convoi poursuivit sa route et essuya des tirs d'armes légères en provenance de la foule. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les casques bleus ont tiré en l'air pour dissuader toute attaque et éviter des dégâts collatéraux contre les civils. Aux environs de 15h40, deux hélicoptères d'attaque ont été déployés au-dessus de la zone en appui au convoi pour dissuader toute activité des groupes armés. À l'entrée du village de Kalembe, le convoi fut à nouveau l'objet de tirs d'armes légères et de lance-roquettes auxquels les casques bleus réagirent vigoureusement en faisant usage d'armes automatiques. Aucun blessé n'a été enregistré de part et d'autre. Du 23 septembre 2013 à ce jour, au total, 41 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes congolaises aux différents bureaux de la section DD3R déployés dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de 18 du M23 avec 4 armes AK-56, 2 AK-47 et une importante quantité de munitions, ce qui d'ailleurs porte le nombre total des redditions au sein de ce groupe rien que pour le mois de septembre à 50. 16 des forces de libération du Rwanda, 4 du MPA, Mouvement populaire d'autodéfense, et 1 de l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain. Les opérations menées par la force de la MONUSCO et l'armée congolaise au sud Kivu favorisent l'instauration d'un climat sécuritaire sous contrôle compte tenu de la pression exercée sur ces groupes armés. En effet, la semaine dernière, la MONUSCO a poursuivi la conduite de ses 8 opérations unilatérales dans les différents territoires de cette province, dans le but de combler le vide sécuritaire créé par le redéploiement des unités FRDC au Nord Kivu, mais également sécuriser les populations civiles. Le même jour, les militaires FRDC ont tué le commandant en second du groupe Maïmaï Ndakalaba, le colonel Masosi Matabaro, au cours d'une opération de bouclage et de ratissage menée près de Kalongé, à 8 km à l'ouest d'Akivib. Le 30 septembre, les FRDC ont tendu une embuscade contre les Maïmaï Rahio Mutombo qui du colonel déserteur Billy à Kalolé, situé à 134 km au sud de Shabunda, au cours de laquelle 3 éléments Maïmaï ont été tués et 2 autres blessés. Au Katanga, la situation sécuritaire dans plusieurs régions situées au nord de la province a été jugée volatile et imprévisible compte tenu de la résurgence d'activités de différents groupes Maïmaï. Une accalmie relative a été observée dans les régions situées au centre du secteur 2 durant la semaine écoulée. Enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1345 armées et donc 602 nocturnes et avons fourni 50 escortes pendant que nos observateurs militaires, quant à eux, ont fourni 309 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Merci, mon colonel. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses, mais je voudrais vous rappeler que nous avons dans la salle notre collègue Yvon Edoumou pour le pilier humanitaire. Nous avons aussi notre collègue du PAM qui est là. Donc, si vous avez des questions à leur adresser, vous pouvez le faire. Comme d'habitude, vous connaissez la règle. Veuillez fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole.